dans le cadre de l'opération Campagne Vidéo qui s'est déroulée à la Chambre d'eau dans plusieurs villages de la région du Favril dans le Nord, le public était invité à rencontrer les artistes installés chez l'habitant. Mélina Hu, vidéaste, nous présente son travail dans une grange nommée Le Petit Corbillard, lieu qui abritait en 1920 le Corbillard communal.
Bonjour à tous, je m'appelle Mélina et donc ma pièce ça s'appelle Champ d'action. En fait, je suis arrivée au Favril au mois d'octobre pour une résidence avec la chambre d'eau, les tricoteries, la structure culturelle. Et en fait, je connaissais déjà le lieu parce que j'avais fait une exposition l'année dernière, une résidence aussi. En fait, j'associais le village, le Favril, que à la structure culturelle. Enfin, tout ce qu'il y avait autour, franchement, je ne m'étais pas baladée, je ne connaissais pas du tout. Et donc cette année, j'étais invitée pour participer à Campagne Vidéo. En fait, on devait travailler sur le territoire. Et puis, je me suis dit, ah, c'est bon, moi, je connais déjà tout ça et tout. Sauf que je me suis rendu compte vraiment pendant cette semaine que je connaissais absolument pas du tout le reste. Donc, j'ai commencé à me balader, etc. Donc, je suis partie en journée, vraiment à la découverte un peu du village. Et puis, je m'asseyais, je contemplais vraiment ce paysage que je trouvais, enfin, que j'ai trouvé au fur et à mesure magnifique. Enfin, en plus, il y a la lumière de nord qui est très intéressante, enfin, qui est assez électrique, enfin, assez forte. Et donc, il y a les couleurs qui ressortent extrêmement fortement. Et je trouvais ça magnifique. Donc, je me baladais. Et je me rendais compte, en fait, que les parcelles de terrain étaient un peu distordues. Enfin, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas forcément carrées. Alors, je me suis dit, mais comment est-ce que les gens ont délimité leurs parcelles de terrain ? Enfin, je me suis demandé comment est-ce qu'on s'appropriait un territoire, une parcelle. Et donc après, j'ai continué un peu aussi à me balader. Je me rendais compte aussi, par exemple, que le panneau signalétique Le Favril, par exemple, il était rayé, alors que la chambre d'eau, qui fait partie de cette commune, enfin, était beaucoup plus loin. Alors, je me suis dit, mais alors, c'est quoi les limites de ce village ? Donc, j'étais voir un habitant. Et je lui ai dit « Bonjour, est-ce que vous pouvez montrer une visite du contour ?» Il m'a dit « Bah oui, venez en voiture et tout. » Donc je me suis dit « Super. » Donc on commence à se balader. Et même s'ils m'ont emmené que sur les routes. Alors il me disait « Bah tu vois, là c'est le Favril, et l'autre côté c'est par exemple Priche, enfin d'autres villes. » Je lui disais « Bah en fait, en gros le contour c'est quoi ? C'est la route ?» Il me dit « Bah oui, le contour sur la route. » Je lui dis « Bah c'est bizarre quand même, c'est pas que les routes, il y a des aménagements effectivement, mais c'est pas tout le temps la route. » Donc voilà, en fait c'était vraiment des questions qui me préoccupaient. Non, j'ai été voir le maire et donc l'ancien maire qu'on a vu tout à l'heure, Monsieur Brunelet. Et je lui ai posé un peu de questions par rapport à ce village. Je lui ai demandé comment ça s'était mis en place. Je lui ai demandé où est-ce que ça se situait à l'époque, etc. Enfin, je lui ai demandé les mutations territoriales de ce village. Et donc, en fait, je me suis rendu compte, entre autres, que le centre qu'on connaît, enfin, là où on est, en fait, était déplacé à travers les générations. Et donc, il y avait notamment un centre qui se trouvait rue du Bois. Donc une grosse route qui est par là. Et en fait, il m'a montré des vues aériennes, donc de l'époque et puis actuellement. Et en fait, on voit vraiment sur un champ, on voit les contours d'une église. Alors je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, donc je voulais absolument aller sur place pour voir cet édifice. Et donc je me suis retrouvée sur place. Et sur place, je n'y voyais absolument rien. Alors j'étais déçue, je me suis dit, mais je vois que de l'herbe en fait. Enfin, c'est une pâture et puis c'est tout. Enfin, il ne se passe absolument rien. Donc j'ai demandé un peu est-ce qu'on m'explique, et donc apparemment comme les édifices sont en dessous, en fait l'herbe pousse différemment. Donc en fait en vue aérienne on voit complètement différemment. Donc je me suis dit bon, en fait je vais pas vraiment pouvoir bosser là-dessus, tout ça, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Enfin bon, donc voilà. Enfin je continue toujours à me balader, et puis tout d'un coup je me suis dit mais en fait ce serait intéressant que je fasse entre guillemets une croisade du territoire en fait sur les anciens sites pour expliquer aussi aux gens que ce territoire c'était pas que ce qu'ils connaissent, c'était aussi avant ailleurs, et qu'il y a eu des mutations qui se sont passées dans l'histoire. Donc j'ai dessiné sur une carte hygiène le contour du village actuel. Donc ça fait un contour qui fait 17 km. J'ai reporté le centre actuel ici sur l'ancien centre. Donc ça veut dire que j'ai déplacé en fait ce dessin de contour sur ces anciens sites. Et donc j'ai fait une randonnée pédestre avec une boussole, une carte, ma carte IGN et puis un podomètre. Et donc j'ai fait mon fil d'Ariane. J'ai marché sur ces terres en prenant en compte le dessin. Enfin par exemple si le dessin faisait... Par exemple, 200 mètres, eh ben, je marchais 200 mètres. Après, je tournais à droite à 30 degrés, je marchais 50 mètres, etc. Et donc, par exemple, si on m'aurait vu dessus, j'aurais redessiné le contour du village actuel, mais ailleurs, enfin, sur ces anciens sites. Donc voilà. Alors, le truc, c'est que j'ai fait ça en une journée, en mois de février. Donc, j'avais trois caméras qui me suivaient. Donc j'avais une caméra toujours de face, une de derrière et une de sur le côté pour avoir des points de vue différents. Sauf que c'est des lieux que je ne connaissais pas du tout. Enfin, sauf que je les avais beaucoup étudiés sur la carte, mais concrètement, sur place, j'en savais rien. Alors je me suis retrouvée dans des forêts, je me suis retrouvée avec des lacs à traverser, avec des barrières à transgresser. Et en même temps, je transgressais aussi des propriétés. Donc j'avais peur de tomber sur des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est mon truc. » Ouais, enfin, peut-être pas à ce moment-là, mais genre de trucs. Et en fait, donc, ça devient une vidéo burlesque, dans le sens où, en fait, je transgresse des frontières, alors qu'on peut le faire autrement que passer en dessous, crapahuter par le dessus, etc. Enfin, je voulais vraiment suivre ma ligne, et puis rien d'autre que j'étais forcée de le traverser. Et donc, bah, d'essayer de le faire comme je pouvais. Voilà. Donc, sinon, cette vidéo, c'est donc une interaction entre deux moniteurs. Comme vous pouvez le voir, donc, j'ai choisi de faire des moniteurs parce que ça ressemble, entre guillemets, à des peintures. Et je trouvais que c'est... vues ressemblent à des vues romantiques, donc très picturales. Et je voulais que le spectateur s'assoie et rentre dans un état presque contemplatif, dans un espace sombre, obscur et renfermé, face à ce paysage qui bouge pas, qui est presque tranquille, qui ouvre les portes de la rêverie. Alors que moi, par mon corps de marcheur, je viens transgresser ce paysage, et en fait, je ressors du champ de la caméra, et le paysage continue à être filmé dans le même esprit. Enfin, j'ai rien transformé à part juste la caméra, enfin le champ de caméra. Et donc, c'est une vidéo qui dure 35 minutes. Voilà. Et oui, donc cette interaction entre les deux moniteurs, en fait, comme j'avais trois caméras qui me filmaient, je pouvais, grâce à ces trois caméras, continuer à marcher tout en. Enfin, donc les caméras me prenaient à chacun de mes marches, en fait. Ils faisaient des relais. Donc, par exemple, je marchais, l'autre me récupérait, etc. Et donc, en même, grâce à l'interaction, en fait, on peut très bien se rendre compte de cette procession de la marche. Enfin, c'est-à-dire que je marche, l'autre écran me récupère, etc. Et après, je repasse dans un autre écran, et ainsi de suite. Et en même temps, les deux écrans, ça permet aussi de montrer des points de vue différents. Donc, par exemple, des fois, on va avoir une action où on voit et de devant et de derrière. Enfin, selon moi, c'est une manière de transposer le spectateur directement dans la nature. C'est-à-dire qu'il peut très bien s'imaginer qu'il est... Il est sur place et donc il regarde devant, il regarde derrière lui ce qui se passe. Enfin, il peut être vraiment directement confronté à ce paysage que je donne à voir, alors qu'il est juste en face de ses yeux. Enfin, quand on ressort, c'est ce qu'on voit. Il y a aussi une dissociation entre le son et l'image. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Donc en fait, le son a été fait après la vidéo. Donc le son, c'est aussi des sons de pas, enfin de moi qui marche, mais sur des différentes terres, donc par exemple des cailloux, des feuilles, etc. Parce que ça fait des bruits différents. Et en plus, on a une marche différente quand on marche sur le caillou. Enfin ça, je m'en suis vraiment rendu compte en faisant cette action, quoi. Quand on marche sur de la terre, par exemple, eh ben, c'est une démarche qui est assez régulière, facile. Sur de l'herbe, c'est cotonneux, c'est moelleux, donc on est beaucoup plus assoupli physiquement. Alors que par exemple, sur des feuilles, ça fait vachement de bruit, alors on marche un peu plus vite. Enfin, bon, il y a un jeu qui se met en place quand on marche qui est assez marrant. Et je voulais aussi, à travers cette installation, faire une association entre la vue et l'ouïe. Et je voulais que, en fait, par exemple, si on fermait les yeux, s'imaginer quels étaient les pas que je pouvais faire par rapport au son et inversement. Vraiment se boucher les oreilles et imaginer quels sons font les images. Et je voulais pas que ce soit une illustration simple. Enfin, je voulais pas que le son soit illustration de l'image et inversement. Je voulais vraiment qu'il y ait deux espaces autonomes et qui se confrontent. Comme je m'étais questionnée sur le territoire et sur les contours, etc., je trouvais que c'était un lieu assez stratégique de mettre à la mairie. Sauf qu'à la mairie, c'est une petite mairie, donc il n'y a pas vraiment de place, c'est des questions de sécurité, tout ça. Donc, il fallait que je trouve un autre lieu. Mais je voulais vraiment quand même être dans le centre de ce village. Enfin, je voulais vraiment être au cœur de ce que j'ai questionné. Et donc, en fait, on m'a parlé du petit corbillard. Alors, j'avais vu l'extérieur, j'avais trouvé ça assez mignon. Mais bon, j'étais jamais vraiment rentrée dedans. Et après, on m'a expliqué que donc, le corbillard, c'était le garage en fait, vraiment du corbillard. Et qu'il y avait, en fait, ça avait toute une procession de la marche. Quand il y avait un mort, par exemple, dans le village, et bien, on partait avec le corbillard. Qu'on tirait par des chevaux et en fait on marchait à pied pour aller récupérer le corps. Et donc après on faisait un tour du village et on le ramenait pour se faire enterrer. Enfin, il y avait vraiment une procession comme ça religieuse du mort. Et donc je pense que c'est bien que je travaille effectivement pas sur ces questions, mais je trouve que la procession de la marche elle était en adéquation avec mon travail. Et je trouvais que c'était en plus c'est un lieu historique que je voulais. Enfin voilà, ça m'intéressait vraiment d'investir ce lieu et puis de le montrer différemment. Thank you.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Qu'est-ce que ça m'a apporté ?
Personnellement ou artistiquement ?
Oui. Alors artistiquement, en fait, je suis pas une vidéaste déjà, donc je fais pas vraiment de vidéos. En fait, normalement, je fais plus des installations, de la photographie. Et donc là, je me suis vraiment confrontée vraiment au médium de la vidéo. Parce que faire une journée de tournage comme ça, c'est épuisant avec des caméras. Enfin, c'est tout un travail de mise en place au préalable qui est lourd, enfin, et en même temps qui est extrêmement riche. Donc déjà, artistiquement, je me suis confrontée à un médium qui m'a plu. Donc je pense que je vais continuer à faire de la vidéo, déjà. Et puis sinon, par rapport au lieu, en fait, je connaissais déjà la structure culturelle des tricoteries. Mais cette année, ça prend beaucoup plus de dimensions que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'est juste une exposition, ça durait une semaine, et puis bon, voilà. Cette année, c'est vraiment un festival. Donc c'est trois jours non-stop, où on voit des habitants, on voit des gens qui habitent ici, et donc c'est pas forcément des personnes qui sont confrontées au monde de l'art comme on peut l'être quand on est en ville, mais en même temps, ces personnes, ils ont extrêmement de répondants, et ils connaissent plein de choses, et ils questionnent sur notre travail d'une manière extrêmement intelligente, et j'étais surprise, enfin, c'est hyper intéressant de parler avec un agriculteur qui parle de ses terres, par exemple. Et surtout que moi, je marchais peut-être sur ses terres, donc on avait un dialogue qui était un peu sourd et en même temps qui s'est mis en place petit à petit. Et puis sinon, je trouve que monter une structure culturelle en pleine campagne, je trouve que c'est un défi et qui est bien réussi. Donc artistiquement, ça m'a permis de découvrir aussi comment est-ce que ça fonctionnait déjà, une structure culturelle, comment c'était compliqué administrativement, et puis me rendre compte de... comment est-ce que tout se met en place du début jusqu'à la fin, voilà. Et puis même la rencontre avec les enfants, hier on a vu 270 enfants, donc on a vu 5 écoles des communes aux alentours. Donc on a vu des enfants de la maternelle de 3 ans jusqu'à des CM2. Et en fait, ils ont tous une lecture différente de nos boulots aussi. Et c'est vachement riche. Moi j'avais de l'appréhension, je me suis dit c'est compliqué à expliquer à des enfants. Et en fait, ils sont très réceptifs. Directement, ils disent « Ah, mais c'est beau, j'aime pas, c'est ennuyant, c'est ceci, c'est cela. » Et en fait, on est confronté à notre travail dans notre regard, et c'est vraiment génial.
À la lueur de la vision personnelle de Mélina U, René, l'ancien maire du village, évoque avec nostalgie ses souvenirs et le passé de ce territoire à l'histoire très riche.
L'endroit là, c'est au pied de la rivière, voyez-vous. Voilà. Alors, après une crue, vous avez une accumulation de souches, voyez-vous, où ça fait des petits barrages comme ça, hein, à l'hiver, surtout à l'hiver, hein, voilà. Alors, c'est la Rivière-Ette, on a eu dans le temps Charles Quint et François Ier qui se sont défiés comme ça à mois de novembre 1500 et des poussières, je ne saurais pas vous dire exactement. Et comme il faisait du mauvais temps, ils ont dit, bon, on repart chez soi, chacun chez soi. Et puis, ils n'ont pas fait la guerre. Mais ici, c'était sur la Rivière-Ette. Hein, c'est la Rivière-Ette. À quel endroit, on ne saurait pas vous le dire. Mais plus on avance vers l'Andrecy, et plus vous avez les berges qui sont plus élevées. Hein. Donc, pour traverser, c'était pas toujours... et peut-être avec autant d'eau, vous voyez d'ici faire... traverser un régiment ou une armée pour aller combattre de l'autre côté, comme ils faisaient déjà, ils tombaient de la neige à volonté, ils ont dit, on s'en va. Et après, Charles Quint, il a démissionné, il s'est fait moine là-bas à l'Escurial de Madrid, voilà. Et François Ier.
C'est un village frontalier ici, hein. Vous avez l'Aisne qui est au bout du village, hein, et puis ça a toujours été frontalier. Il y a toujours eu des bagarres ici sur le Fabril. Il a été détruit plusieurs fois, hein, que ce village. Oui, voilà. Oui, oui.
Alors on a toujours subi les sièges de l'Andrecy, c'est-à-dire que nous on avait les assaillants. Ils montaient sur le. Nous c'était un promontoire, si on veut. Donc, les assaillants, on a eu des Autrichiens, des Suisses, des Russes, des Anglais, bien entendu, des Suédois, toutes les nationalités. Et ils venaient et on a supporté 17 sièges que l'Andrecy a supporté, sans compter les sièges avant de l'invasion normande, barbare et gauloise. Gauloise aussi, avec Jules César. Alors, exactement... On manque encore de preuves pour savoir s'il y a beaucoup de chances que la bataille de la Sabisse a eu lieu ici, au sud de la forêt de Montmal. Voilà.
Ça s'est calmé maintenant. Vous viviez comment?
Ah ben moi, je vis tranquillement. Je suis retiré des responsabilités municipales. Bon, et ce que je voudrais faire, c'est l'histoire complète du village du Favril. Hein, voilà. Mm-hmm. Hein.
Donc ces vidéos-là, elles contribuent un peu au patrimoine ?
Un petit peu. Bon, c'est visualisé, on peut se rendre compte un petit peu du paysage et des habitations et tout ça, voyez-vous, la commune. On repère. Là, voyez-vous, on voit les habitations à l'arrière, donc c'est pas facile à pouvoir déceler les habitants. Oui. Bon, regardez, elles montent sur la barrière... Comme les chasseurs, oui. Puis après, le fermier, il dit, tiens, c'est bizarre, ma barrière est cintrée. Ou elle est restée ouverte, bien entendu. Mais là, c'est resté fermé. Voilà.
Ça fait un peu d'animation au village ?
Ah ben, je pense bien. On a fait un petit peu d'historique tout à l'heure. Encore tout de suite, un petit peu. Mais si, si. Bon, ben, puis le village est accueillant. On a pas mal de... C'est des villages fleuris déjà depuis 92, hein, 1992 à peu près. Hein. On a 17 ans de marché aux fleurs et fête de l'arbre à l'arrière-saison.
La population est plutôt en augmentation ?
Ah oui, je pense bien. Donc en 70, on était à 359 habitants et au dernier recensement... On était à 465, donc plus de 100 habitants en plus.
Le Favril, c'est ça ?
Le long Favril. C'est-à-dire que le Favril, voyez-vous, est assez long. Hein, vous aviez tout en longueur, donc il a même été raccourci parce qu'à l'origine, il était encore plus long. Mais lorsque Napoléon a fait le premier cadastre, ça a été un petit peu rétréci en largeur et rétréci en longueur aussi. Sinon, il était encore plus long. C'est pour ça qu'on a laissé le Favril pour laisser une petite séquence d'histoire pour que ça puisse avoir un petit peu une signification avec le long Favril. Hein, parce qu'au début, c'était le long Favril. Hein.
Sinon, le Favril, ça a un nom, un sens particulier ?
Ça vient de Forges. Alors là, on a eu des forges aussi parce que, voyez-vous, on avait des sablières et dans les sablières, on estrayait des grains avec du fer ferrugineux. Alors vous aviez les pierres qui sortaient plus ou moins ferrugineux et celles qui étaient assez foncées comme le soubassement de l'église, ils estrayaient le fer. Donc, ils avaient un fer qui ne rouillait presque pas parce qu'il y avait de la magnésie avec. Actuellement, la minette de Lorraine, il fallait rajouter de la magnésie pour pouvoir extraire un petit peu le phosphore. Tandis qu'ici, il n'y avait pas de phosphore, mais le fer se gardait très bien.
Il y avait du soleil ce jour-là.
Oui, voilà. Alors là, ce sont des haies de charme tétard, voyez-vous. Et du charme, hein. Ah, vous avez... Ah, oui. Elle nous avait dit qu'elle avait traversé des marais, et on le constate. Hein. Alors ici, on a 1149 hectares exactement de surface, et on a 154 hectares de bois, dont le bois de Toyon. Hein, ça vient de Touillon, si on veut, dans le temps. Et on a eu anciennement... On a eu les seigneurs d'Avennes qui ont installé une préceptorie de Templiers, qui était sous l'égide de Saint-Aubin.
Votre nom ?
René Brunelet, l'ancien maire. Voilà. J'ai été maire 27 ans, voilà.
Merci.
De rien, c'est normal.
Un témoignage teinté d'histoire qui conclut la résidence d'une artiste immergée plusieurs mois dans cette campagne accueillante dans le cadre du projet Campagne Vidéo mené par la Chambre d'eau sur plusieurs villages, le Favril, l'Andrecy et Priche, dans le département du Nord.